le poilu Louis Truchon.
C'était des bombardements affreux, quoi. Vous savez, dans la bataille, c'est un bruit épouvantable. Je sais pas, c'est inimaginable le bruit d'une bataille. Des centaines de pièces de canon qui tirent en même temps. Hein. Nous, on a eu la chance, pour débuter, on était en position dernière ligne de chemin de fer.
Ça peut pas faire de mal.
Alors, les obus qui tiraient un peu court, ils tombaient là. Puis ceux qui étaient un peu longs, ils nous passaient sur la tête. On n'était pas beau à la fin de la bataille. Hein. Bon, à la fin de la bataille, moi, j'étais couvert de poux, couvert de boue, les deux tympans crevés. Alors, pour se débarrasser de moi, on m'envoyait en permission.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il y a plusieurs hommes à cheval.
Ton père ne monte pas à cheval. Marouchka se jette par terre et écoute. Laszlo fait un mouvement vers elle. Marouchka se lève d'un bond.
Je ne connais pas ces sons.
Ça roule.
Ça ne roule pas.
Son véhicule n'a pas besoin de chevaux.
Pas de chevaux.
Quelque chose le pousse, je ne sais pas quoi.
Tu as déjà vu cela ?
Je l'ai vu au-delà des Landes, là où partent les grands chemins, loin, très loin, vers les coupoles, vers les tours, vers les lumières dans la nuit. Ça fonce et crépite et craque et tourbillonne. Marouchka se tord les mains.
Fuyons.
Laszlo éclate de rire et s'approche d'elle, tendre. Marouchka. Elle s'échappe. Il lui barre la route. Il n'arrivera pas jusqu'ici. La lande va l'engloutir car sa voiture est lourde. Il doit aller à pied comme toi et moi. Il ne viendra pas te chercher.
Il ne viendra pas me chercher.
Tu entends ? Ça craque. C'est fou. Ces hommes-là, ils ne connaissent ni matin, ni midi, ni soir. Quand le soleil se montre, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Une mêlée sauvage, le ciel n'a pas de voûte, jamais que des lambeaux, des murs, des recoins, des chemins, durs et couverts de pierres. Ça part dans tous les sens, impossible de t'y retrouver. Marouchka tremble de tout son corps.
Père, nous avons tous été abandonnés. Tous.
Cette jeune orpheline, terrifiée par le brouhaha des hommes, est l'héroïne d'une pièce de théâtre intitulée « La fiancée des Landes », symbole d'une jeunesse perdue en quête d'une patrie et d'une âme. Écrite en 1913, elle est l'œuvre d'un poète allemand méconnu, August Stramm, né en 1874 et mort en 1915 sur le front russe. Cette scène quasi prémonitoire semble annoncer le chaos de la Première Guerre mondiale à laquelle il participe dès les premiers jours. Après Guillaume Apollinaire la semaine dernière, écoutons ce soir, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le témoignage d'un autre officier engagé dans le conflit de l'autre côté des lignes. D'origine modeste, August Stramm devient inspecteur des postes et commence à écrire tardivement. Tandis que sa femme, l'auteur Else Kraft, connaît un grand succès avec sa poésie classique, il développe quant à lui un style très personnel, sobre et sombre, qui oscille entre le symbolisme et l'expressionnisme. Ce soir, découvrons l'écriture si particulière d'August Stramm à travers la correspondance qu'il tient depuis le front avec sa femme, mais surtout avec un couple d'amis, Nell et Erwart Walden, rencontrés quelques mois auparavant. Compositeur et fondateur d'une revue d'avant-garde, Erwart Walden, de son vrai nom Georg Levin, publie les premiers textes d'August Stramm et l'introduit dans le milieu littéraire. Mais bientôt, le traumatisme de la guerre s'insinue jusqu'au cœur de son écriture, de plus en plus épurée. Dans sa dernière pièce, au titre évocateur « Destinée », écrite en 1915 dans un train de permission, ses phrases se réduisent à des cris de détresse. « Maudite, terre ». Et le dialogue s'éteint, laissant place à des didascalies éloquentes, rugissement, tonnerre, abîme. Et pour m'accompagner dans ces chroniques d'un autre siècle, j'ai le plaisir d'accueillir une amie et magnifique comédienne, grande interprète au théâtre des héroïnes d'August Stramm, entre autres, Dominique Raymond. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir et commençons par la première évocation de la guerre. Au printemps 1914, August Stramm voit sa première pièce éditée, Sancta Sausanna, et travaille aux corrections d'une seconde, rudimentaire. L'été 1914, il prépare la publication d'un recueil de poèmes lorsque la guerre éclate. Le 2 août, il est mobilisé en tant que capitaine de réserve. Il est affecté à la 110e compagnie d'infanterie et prend part au combat à la frontière franco-allemande dans les Vosges alsaciennes. En pleine tourmente, l'écriture de Stramm s'accélère et s'émancipe de la ponctuation. Annel et Erwart Walden, le 20 août 1914. La lampe vacille et louche, les étoiles planent brumeuses. Des fourmis rampent autour de la gourde, du pain, du revolver et du casque. Des mouches se battent, d'innombrables mouches autour du petit pot de miel que mon ordonnance a fidèlement déniché aujourd'hui pour son capitaine. Guerre. Guerre. Tout est derrière moi. Espoir, amitié et amour. Je vous aime, mais vous êtes loin, loin derrière moi. Ne m'en veuillez pas, mais c'est un autre qui vous a connu, un autre, pas moi. Pour moi, il n'y a qu'un foncez. Je ne suis que foncez. Foncez. Tous ont des femmes et enfants à la maison, tous n'ont dans le corps qu'un élan d'indignation contre la vilainie, le crime, les salauds. Foncez! Foncez! Ces derniers temps, j'ai chaque jour fait des patrouilles à cheval contre l'ennemi, presque tombé aux mains d'adversaires en surnombre, coupé des nôtres. Mais nous nous sommes frayés un chemin en nous battant, en nous faufilant, avons ri comme des gamins qui se sont faits, ont failli se faire attraper. Oh, la force est magnifique, la force! À présent, nous attendons l'ennemi. Attendons. Il doit venir, il faut qu'il vienne. Nous ne voulons plus rien d'autre au monde. Toujours à ses amis, quelques mois plus tard, 9 Prisac, le 6 octobre 1914.
Que dois-je dire ? Il y a tellement, infiniment, de mort en moi. De mort et de mort. Je pleure intérieurement et extérieurement. Je suis dure et brutale. J'ai enterré quelqu'un, je ne sais où. Et s'il remue tout de même par moments, je lui donne une claque et il repart dans son coin en voltigeant. Tout est si contradictoire. Je ne m'y retrouve plus dans cette énigme. Ah, mes chers, je n'ai pas pu lire La fiancée des Landes. À quoi bon tout ce bégaiement ? Je ne peux de toute façon plus lire. Il y a tant de miracles autour de moi. Des miracles alentour, je ne peux plus du tout lire et réfléchir. La parole déjà me reste dans la gorge, d'épouvante. Je préfère jurer, tempêter, monter à cheval, boire, dormir. Et toujours mon âme est pleine de douleur. Une douleur, je ne sais pas pourquoi, d'où elle vient, où elle va. Je n'ai pas la foi. Je vis en étant mort. Avec cela, je suis en bonne santé. Et solide comme une noix creuse à la coque épaisse. Je n'ai envie de rien. Je voudrais tuer, tuer. Alors je ne fais qu'un avec ce qu'il y a alentour. Alors j'ai de nouveau un sol ferme sous les pieds. Alors je ne suis plus si terriblement seul dans les airs sans aile. Où est celui qui prêche le meurtre, qui prêche l'évangile du meurtre obligé ? Tuer est un devoir, et le ciel, et Dieu, frénésie. Récemment, j'ai lu Demel, ses poèmes de guerre, des foutaises, crachats, purins. Où y a-t-il des paroles pour ce que nous vivons ? Misérable bousilleur, je ne fais plus de poèmes, tout est poème alentour. Horreur lamentable, lâche, sournoise. Et l'air ricane sarcastique et descend des montagnes en gargouillant, en tonnant. Rien n'est vrai et tout est mensonge, infâme. À présent, je ne voudrais plus expédier cette lettre. J'en ai déjà écrit et déchiré une. Je n'ai aucune confiance. Tout est si mort, mais je le fais tout de même. Et une chose m'a fait plaisir lorsque j'ai eu La fiancée des Landes sous les yeux. J'avais la preuve que vous êtes fort. Et gardez la tête haute.
À la fin de l'année, le conflit s'est enlisé dans les tranchées. L'écrivain dénonce l'absurdité de la guerre. Sous la menace des bombes, il est aussi en proie à une étrange fascination pour la violence. Annel et Erwart Walden, le 14 décembre 1914. J'étais à nouveau durant des jours totalement ébranlé. Tout lutte en moi. Physiquement, j'étais aussi anéanti. J'avais une forte fièvre et des frissons. Maintenant, c'est sûr, je vais partir. Probablement vers l'Est. Quand, comment, où, personne ne sait. Mes affaires sont empaquetées, j'attends d'heure en heure un ordre télégraphique. S'y inclut quelques poèmes. Je sais et je sens que tout n'est pas réussi comme je le voulais, mais je n'ai pas le temps de juger. Faites-le pour moi. Jette ce qui ne vaut rien. Ah, mes amis, qu'est-ce que la poésie ? Ici, depuis avant-hier, les fenêtres tremblent à nouveau du bruit des canons. Horrible. Et chaque jour, de grandes batailles aériennes, et malgré tout, des bombes sont larguées sur Freiburg. Là-haut, ici-bas, tout est absurde. Non-sens. Qu'est-ce que le sens ? Je ne veux pas me poser la question, je veux seulement regarder. Mais ces contradictions insensées ne me laissent pas en paix. Ah, mes chers, si vous entendiez ce grondement bestial venant des montagnes, jour et nuit, nuit et jour, tout en moi se cabre contre cela, et pourtant je me sens attiré. Je le fuis et m'y précipite à la fois.
Hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in meinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt? Es ist dir weggenommen haben für den Graben, Mutter. Noch an Vater denken. Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm. Wir werden dir weggenommen haben für den Graben.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Après une permission, August Stramm est de retour au combat. Il est à nouveau en proie à des sentiments contradictoires. La conviction de vaincre et l'impuissance, comme en témoigne cette lettre à sa femme. 9 Brissac, le 31 décembre 1914. Toi, mon cher trésor, la Saint-Sylvestre. Et un grondement de canon comme je n'en ai encore jamais entendu durant toute la guerre. De grandes choses sont proches, certainement, mais personne ne sait quoi. L'année s'achève ainsi, la paix blanche de l'année dernière, et maintenant. Mais cela se terminera d'autant plus pacifiquement, certainement. Confiance, confiance. À présent, mon cœur est souvent terriblement lourd, terriblement lourd. Ah, mon trésor, ce qu'il faut vivre, je n'ai pas encore reçu une ligne de toi. Cela aussi m'inquiète profondément. Sûrement tout irait bien si je pouvais être avec vous. Ah, mon amour, Cela doit changer et tout sera à nouveau bien. À présent, je pense à vous, à toi et aux bambins, plus que jamais auparavant durant la guerre. Ce n'est quand même pas bien de venir ainsi en coup de vent à la maison, à mon amour. Ces déflagrations se posent sur moi comme une montagne. Ici, toutes les oreilles écoutent et tous les yeux interrogent. Mais cela ne leur sert à rien aux ennemis. Nous devons vaincre et nous vaincrons. C'est certain. Ce sentiment nous domine tous. Malgré la séparation et l'épreuve de la guerre, Auguste Stramm écrit peu à sa femme, qui ne partage pas son engouement pour l'art d'avant-garde défendu par le couple Walden. Par ailleurs, l'écrivain semble séduit par la personnalité de Nell, comme le suggère la lettre suivante.
Le 12 janvier 1915. Après des journées difficiles, pleines de combats, de chaos, de tempêtes et de canonnades extérieures et intérieures, je me retrouve. Les yeux de Erwart brillent devant moi et devant mes lèvres est posée la main de Nell, non, aussi la bouche de Nell. Et cela, c'est authentique. Nell, toi née jeune, millénaire, je te salue et te félicite et t'enveloppe des souhaits les plus fiers. Je n'ai pas d'avantage pour l'instant. Pauvre, comme je me sens infiniment pauvre et impuissant, et pourtant plein de forces tourbillonnantes, je pourrais et voudrais piétiner un monde. Oui, je voudrais y reconstruire. Une force immense et une impuissance immense. Pouvoir et ne pas pouvoir. Vouloir et ne pas vouloir. Ah, où est la fin et le but ? Tout vacille autour de moi, en moi, et je me tiens comme figé, sans appui, sans fondement, dans le néant, cramponné, ancré et pétrifié dans une grimace de volonté et de défi. En bas, mon cheval attend. Ça fait du bien. Nous nous battons toujours l'un contre l'autre, tous les deux. Il aimerait tellement faire autre chose que son cavalier. Mais je suis toujours vainqueur, cruel et dur. Pauvre bête. Je vous salue. Écrivez-moi bientôt. Ça me fait du bien.
Auguste Stramm, qui souffre de ne plus rien lire, retrouve soudain l'inspiration et une confiance absolue en sa vocation d'écrivain. Voici dans quelles circonstances il écrit ce qui sera sa dernière pièce de théâtre au titre éloquent « Destinée ».
À Nell et Erwart Walden, le 22 janvier 1915. Cette nuit, un drame colossal qui couvait depuis longtemps en moi a pris forme. Pourvu que j'ai encore le temps de le copier, tel qu'il est, personne ne peut le lire. Il embrasse tout l'univers entier. Et il est pourtant scénique. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais que cela se soit abattu sur moi, précisément maintenant, au milieu de cette horreur dans laquelle je suis pris, malgré toute ma fermeté, toute ma volonté de courage. Mais je trouverai bien le temps. Tant d'œuvres à naître tournoient encore en moi, que je ne peux pas mourir, que l'esprit universel ne peut pas l'accepter. Comme cela paraît présomptueux et fier. Et pourtant je le sens, mais je ne le dis qu'à vous. Je l'ai aussi dit allusivement à ma femme pour lui donner courage et soulager son désespoir.
Au lieu de partir vers l'Est comme il le prévoyait, Auguste Stramm rejoint le nord de la France. Le voici dans une petite commune aux alentours de Lille, puis dans les tranchées de Picardie. À sa femme, berceau court le 30 janvier 1915. À l'instant, l'ordre est donné qu'après-demain, si rien ne se produit entre-temps, nous quitterons la réserve et avancerons en première ligne. Eh bien, tout cela n'est pas grave. Ça ira. Mes pauvres gars grelottent terriblement. Au front, il fera sans doute plus chaud. À mon trésor, que le diable emporte la guerre. Toujours à sa femme quelques jours plus tard. Dans les tranchées, Chaulnes, le 4 février 1915. C'est parfois comme si le ciel entier n'était plus que sanglots et pleurs et hurlements impuissants. Les villages alentours sont totalement détruits, criblés de balles. Par-ci, par-là, les flammes jaillissent soudain. La terre gicle comme si elle dansait une ronde. On ne peut pas décrire cela, ni l'expliquer à personne, parce que personne ne peut l'imaginer, parce qu'on ne le croit pas soi-même, bien qu'on soit au beau milieu de ces événements. Nous sommes enterrés, vivants, et respirons, et sommes contents. Et au-dessus de nous, le destin se déchaîne. Tout est à l'affût. Heureusement, le temps est sec. Et la nuit, les étoiles, quand on regarde hors des trous, fabuleux. Et les sifflements furieux. As-tu un jour vécu un orage sous un soleil radieux? C'est à peu près ainsi que tu dois imaginer ma situation actuelle. Ça roule, tonne, siffle, gronde, feule tantôt tout près, tantôt au loin. En première ligne, une seule consolation pour Auguste Stramm, ouvrir les colis que lui envoient ses amis, où il découvre les éditions de ses œuvres. Toujours à sa femme, le 12 février 1915. Nous ne sommes plus que mottes d'argile. C'est comme ça que j'ai reçu hier mes poèmes d'amour. Il fallait que j'ouvre ce paquet. Je me suis lavé le bout des doigts avec du café. Sans doute, il est rare que des poèmes d'amour soient lus ainsi une première fois. Mais le livre est magnifique. La présentation est brillante, de première classe. J'étais vraiment ravi. À nouveau, en lui, ressurgit le paradoxe entre la poésie et la violence physique.
Annel et Erwart Walden, le 14 février 1915. Mes chers, chers, l'univers gronde. J'ai maintenant 6 jours de combat derrière moi. Le plus horrible, c'était hier, le 13. Tu as dit un jour qu'on peut tout imaginer. Tu as raison, tout. Mais imaginer et vivre ce qu'on a imaginé, ce sont deux choses. On peut imaginer, mais pas ressentir. Je ne suis pas peureux. Je n'ai jamais ressenti de peur. Ça aurait été trop ridicule, mesquin. Tout était trop effroyable pour avoir peur. Mais une horreur est en moi. Une horreur est autour de moi. On doit défaire l'alentour. Étrangle, empêtre. On ne trouve plus d'issue. Effroyable. Je n'ai pas de mots. Je ne connais pas de mots. Je ne peux que regarder fixement pour m'abrutir, pour réprimer tous ces coups. Car je le sens. Je le sens très nettement. Que des coups de fouet et de griffes s'en prennent à ma raison. Dieu merci, je suis brutale, et ai en moi tant de brutalité physique que normalement je réprime. Maintenant, il faut qu'elle vienne, maintenant, je l'appelle et je m'y cramponne. As-tu vu un jour une boucherie où des hommes charcutés sont présentés à l'étalage, tandis que les machines vrombrissent dans un vacarme infernal et charcutent sans relâche d'autres hommes avec leurs mécanismes ingénieux? Et toi, abruti au milieu de tout cela, heureusement abruti, boucher et tête de boucherie. Et les diables noirs sortent subitement partout du sol, les garçons bouchers, les grenades. Hier, un de ces garçons bouchers a d'un seul coup déchiqueté l'homme qui était à côté de moi, avec des rires sarcastiques, m'a couvert de sang, de chair et de boue. Assez. Assez. Hier soir, nous avons été relevés de notre position dans la forêt, mais la musique continue, elle n'a pas encore quitté nos oreilles. Cette nuit-là, j'ai reçu les poèmes d'amour. La nourriture et la poste nous sont toujours apportées la nuit. Malgré l'obscurité, la pluie, le tonnerre, les canonnades alentour, il fallait que j'ouvre ce paquet couché à plat ventre dans un trou afin qu'il ne soit pas mouillé. Et une bougie devant laquelle mon ordonnance a dû se coucher pour que sa lueur n'offre pas de cible à l'ennemi. J'étais ravie. Et aujourd'hui, je les vois 2 jours devant moi. Soyez remerciés, profondément remerciés, vous deux. Magnifique, merveilleux, je n'aurais jamais si bien réussi. Maintenant, la fusillade reprend déjà. Merci pour tout ce livre. Je dois sortir. Portez-vous bien.
Depuis le début du conflit, Auguste Stramm a commencé à rédiger une pièce sur la guerre intitulée « Saignée ». Dans la lettre suivante, il explique à son ami pourquoi il abandonne ce projet qui ne verra jamais le jour. Pertin, le 23 février 1915. Nous n'avons pas le droit d'écrire quelque chose qui puisse décourager. C'est d'ailleurs juste. Il ne faut pas le faire. L'Allemagne a besoin de combattants courageux et forts. Cela ne sert à rien. Nous devons passer par là et tenir, même si nous condamnons fermement la guerre. C'est pourquoi je ne termine pas mon drame saigné. La guerre dans toute son atrocité. Pas à cette époque, où nous devons rester debout, la main crispée sur l'épée, dans l'horreur et la détresse. Après viendra l'heure de faire ressortir à nouveau ce qui est purement humain et de montrer ce qui est inhumain. À présent, cette détresse nous contraint à l'inhumanité si nous ne voulons pas mourir. Nous sommes nous-mêmes des démons et nous nous moquons des autres. C'est ce que ressent le soldat en campagne. Il n'y a rien au-dessus de lui et il n'admet rien de supérieur. Il foule la terre et tue le ciel à coups de feu. Et l'horreur est en lui, autour de lui. Lui-même est horreur. Mais une horreur fière, divine. Pour lui, tout est jeu. Et il se lance lui-même en tant que dé. C'est ce que je sens, et je sais que c'est ainsi. Tu me comprends? Après l'effroi au combat et les sentiments contradictoires, August Stramm est atteint dans son identité propre, comme en proie au délire, à la folie.
Annel et Erwart Walden, Bertin, le 25 février 1915. Cher, qui es-tu, homme ou femme? Je ne trouve jamais ce que je cherche. Je suis homme et femme. J'ai lu les poèmes d'un certain August Stramm. Et August Stramm est auprès de moi. Ce malotru, ce scélérat, cet être mou, ce forçat, ce méditeur, ce « je ne trouve pas de mots ». Où y a-t-il un « moi » comme celui-ci? Je suis une énigme. Qui résout l'énigme? Si je suis une énigme, tu es celui qui résout. Aucune énigme ne se résout elle-même. Elle se fragmente seulement en d'autres énigmes. Poète est un vocable détestable, un signe distinctif du mensonge. Mensonge, l'être sensible est vérité, vérité. Tu n'es ni homme, ni femme. Tu es moi, seulement moi. Aussi différentes que soient les manifestations de notre être, je ne suis pas moi, pas une personne. Je me sens univers, tout l'univers. Je suis conscient de l'inconscient. Que les raisonnables en rient. Je sens univers, je sens moi, vous, univers et tout. Langage au diable, langage et moi, vous, univers et tout. Pas sens, pas raison, pas vue. Tâter, entendre, ressentir, ressentir, quel mot céleste. Où y a-t-il des mots pour les mots? Je suis ivre, je n'ai pas de mots, que des balbutiements. Balbutiements. J'adresse des balbutiements à l'univers et l'univers balbutie. Et là, balbutier, lutter, s'enlacer et tomber en pleurs, blessé dans la souffrance. Se séparer toujours et toujours à nouveau. À 5 heures, rassemblement, nous marchons. La conscience triomphe, le circonscrit, le limité. Et nous retournons. Revenons ici, dans le même espace. La conscience triomphe. Sûrement. Sûrement. Ce qui est derrière, grondant, roulant, émoussé, à l'affût, endormant, ricanant, horriblement, narguant, horriblement, sans extension, sans temps, sans direction, sans consistance, l'inconscient. Portez-vous bien, mes chers, chers, moi, vous.
Le voici à nouveau face à sa propre conscience et face à son devoir. À sa femme, Schaulne, le 5 mars 1915. Autour de moi, la nuit, je suis assis dans un trou, accroupi. Dehors, les balles sifflent et mes patrouilles rampent. Je leur ai dit « apportez-moi un, mort ou vif ». Je dois tirer au clair quelles troupes sont en face de nous. Mort ou vif? N'es-tu pas horrifié par ma cruauté? N'est-ce pas un meurtre ou une incitation au meurtre? Et pourtant, mon amour, cela ne doit-il pas être ainsi? Je tue froidement et incite au meurtre froidement, durement, brutalement. Ma patrie? Cette notion est trop étroite pour moi, elle ne m'excuserait pas devant moi-même. Non, je tue afin que ces meurtres cessent. Je suis courageux, un fonceur, c'est ce que j'ai entendu dire. Pas pour foncer, pas par brutalité et plaisir d'être brutal, non, par colère, par haine contre cette brutalité indescriptible, cette brutalité incompréhensible, inhumaine. Je propulse mes forces parce que je me déchaîne contre le gaspillage de toutes les forces destinées à des fins sublimes. Je ne suis pas courageux dans ce sens grossier qu'on m'attribue, ce pourquoi mes gars m'admirent. Je suis lâche, indiciblement lâche, parce que je veux expulser du monde ce genre de courage brutal. Tu me comprends, mon amour? Le même jour, Annel et Erwart Walden, dans cette lettre, l'écrivain brosse de façon prémonitoire le portrait du XXe siècle guerrier.
Tu veux numéroter tes lettres? Ah, ne le fais pas. Je déteste tout ce qui est numéroté. On peut en perdre une, deux, trois, pourvu qu'il en arrive une. Les anciennes sont toujours contenues dans celle qui suit. Ah non, numérotée. Je ne voudrais même pas être étendue dans une tombe numérotée. Je suis assis. Au-dessus, ça crépite sans interruption dans un trou appelé abri. Fameux. Une bougie, un fourneau, un siège, une table. Tout cela conforme au temps nouveau. La culture du XXe siècle. Et au-dessus, ça crépite sans interruption. Clac, clac, chh, zoom. C'est l'éthique du XXe siècle. Et à côté de moi, quelques lombriques sortent de la paroi en sautillant. C'est l'esthétique du XXe siècle. Je pourrais vous présenter encore beaucoup de choses. Et pourtant, vous, là-bas en paix, vous êtes des nains. Lorsque vous riez, que vous plaisantez, que vous en parlez, que vous écrivez à ce sujet des articles de journal pour distraire, instruire et stimuler. Oh, vous tous qui faites de belles choses, vous devriez tenir votre chapeau comme devant un sanctuaire incompréhensible, comme devant quelque chose qui exhale la souffrance et l'horreur la plus profonde de l'humanité, venant des espaces les plus insondables de l'univers. C'est ainsi que vous devriez vous tenir et vous approcher sur la pointe des pieds. Car ici, toutes les profondeurs sont mouvantes, toutes les hauteurs se dressent comme des tours, des cimes, la nuit, la nuit, la nuit. Où ai-je abouti? Je vis dans une profonde frénésie, intérieure, intérieure, pas extérieure, non. On me dit courageux, et je suis courageux, et je dois serrer les dents parce que j'ai envie de pleurer. Pas sur moi, pas sur je ne sais quoi, je ne sais pas sur quoi. Je voulais vous écrire une lettre tout à fait différente.
En avril, August Stramm est envoyé sur le front Est. Il participe à l'offensive de Gorlice en Pologne, l'une des grandes victoires allemandes sur les Russes. À bout de force, l'écrivain oscille entre l'exaltation, le délire et le désespoir.
Annel et Erwart Walden, le 29 avril 1915. Mes gars sont des héros. Malgré la fatigue, personne n'a refusé de marcher. Tous ont suivi en clopinant. Affaire d'honneur. Et maintenant, tout est oublié. À l'attaque. En avant. Allez. Il paraît que les Russes ont eu une peur terrible en apercevant les premiers casques à pointe, à juste titre. L'assaut se prépare, chacun le sent, d'ailleurs chacun le veut. Nous brûlons d'impatience, nous allons à l'assaut en riant. Nous rions des impacts de projectiles et ne nous laissons pas déranger dans notre bien-être. Nous nous réjouissons en tant que barbares de chaque tir qui porte et quand une maison flambe et que les fourmis se mettent de nouveau à courir, une gigantesque soif de combat nous anime.
À sa femme, le 13 mai 1915. Grande fatigue, énorme usure nerveuse. Scène terrible, temps magnifique. Mais je n'ai plus envie de voir le soleil, les montagnes. C'est horrible, tout est si épouvantablement horrible. Je pense tellement à vous. À sa femme le 20 mai 1915. Depuis la grande percée de Gorlice, ma compagnie a été au combat tous les jours et même toutes les nuits. On s'abrutit terriblement et ne fait plus attention aux balles et aux projectiles. Qui tombe, tombe. De temps en temps, on s'étonne un peu lorsque la conscience revient d'être encore en vie. Au fond, on ne comprend pas vraiment. Mais je le répète toujours, la main de Dieu me protège. Ce n'est pas possible autrement. Les meilleurs hommes de ma compagnie ont disparu. J'ai vécu des choses horribles, mais je vis encore. Ma veste a des trous provenant de balles de fusil de shrapnel. Elles ont traversé et passé en sifflant. Lorsque je rentrerai, ce haillon sera un souvenir de famille. Les Russes ont concentré ici toutes leurs forces. C'est leur dernière position forte. Après tous ces efforts, nous étions en train de ronfler comme des ours. Un bruit infernal, un océan de flammes, de fumée, nous ont réveillés en sursaut. Les Russes avaient enfoncé nos postes, étaient juste de l'autre côté de la barricade, même dessus, et lançaient des grenades de notre côté. Flammes, craquements, éclats. Un des premiers qui tomba fut mon très cher major Gottberg, et beaucoup d'autres. Un moment de stupeur, puis une rage sauvage, déchaînée. Il n'y a pas de mots pour cela. ni pour ce qui s'ensuit. Tirer, frapper, piquer, terrasser. Tout cela dura une demi-heure, comme le révélera ensuite la montre lorsqu'on reprit ses esprits. Il n'y avait alors plus de Russes, seulement des cadavres. Quelques prisonniers loqueteux tremblant d'épouvante. À part cela, tous morts. Des monceaux. Des monceaux. Les premières lignes avaient des grenades, les suivantes des fusils et des baïonnettes. Derrière, incroyable. Incroyable. Des bandes de soldats avec de lourdes massues et des haches, certainement pour donner le coup de grâce comme au bétail à ceux d'entre nous qui auraient survécu aux deux premières armes s'ils respiraient encore. J'étais encore en vie, comme je le constatais plein d'étonnement. Quelques trous de plus dans l'uniforme, sinon indemne. À travers toutes ces épreuves, toutes ces morts, quelque chose de mystérieux, de sacré m'a protégé. Profitant d'une courte accalmie, le poète médite sur le sens de la vie et de la mort. Pour lui, tout n'est plus que chaos, confusion.
Hanel et Erwart Walden, le 27 mai 1915. J'ai déjà écrit aujourd'hui, mais nous avons un calme inespéré, et maintenant je ne connais rien de meilleur ni de plus agréable à faire. Au-dessus de moi, dans un buisson, un rossignol chante à travers l'odeur de roussi et les cadavres en décomposition. Ce que je suis et comment je suis, je ne le sais pas. Je me sens seulement fort, très fort, à l'instant. Tout ce qui est au-delà ou derrière est mort. Et pourtant, étrange, la mort et la vie sont un. C'est un tissage artistique. La vie est la surface et la mort est l'espace infini derrière. Vivre éternellement et être éternellement mort est un même sentiment. L'étonnement, la surprise de s'éveiller toujours à nouveau. Un nageur qui émerge de l'eau et surpris regarde le soleil en clignant des yeux et qui sent l'abîme sous lui et porte l'abîme en lui. Le rossignol appelle et je suis fort. Fort n'est pas un mot pour moi et pour tout ce qu'il y a ici. C'est simplement la guerre. Et parce que nous sommes l'horreur même et ne faisons qu'un avec elle, nous n'éprouvons plus l'horreur. Bataille et détresse, et mort, et rossignol, tout ne fait qu'un. Un. Et combat, et sommeil, et rêve, et action, tout est un. Il n'y a pas de séparation. Tout fusionne et s'estompe et scintille comme soleil et abîme. C'est ainsi que nous combattons, avons faim, mourons et chantons. Tous, soldats et officiers, nuit et jour, cadavres et fleurs. Et au-dessus de moi, une main brille. Je nage à travers tout. Suis tout, moi. Ah, mes amis, mes poèmes sont aussi tourmentés. Je ne peux pas écrire. Tout est trop confus en moi. J'en imagine tellement. Tout on doit. Et quand j'en viens à les écrire, c'est une forme schématique, vide de sens. Si je devais un jour rentrer, j'en ferai un recueil et les appellerai « gouttes de sang ».
Malgré le découragement et la résignation, August Stramm refuse de se soustraire à son devoir. Toujours à ses amis, tout juste un mois plus tard, le 27 juin 1915. Tout ce qui m'était proche est loin, est mort. Je suis le dernier des officiers en vie dans ce bataillon. Depuis début mai, nous sommes en marche ou au combat. Depuis 6 semaines, pas de toit sur la tête. On n'accorde pas de permission ici. Cela passerait d'ailleurs carrément pour de la lâcheté. Sinon, j'aurais essayé depuis longtemps. Je suis terriblement diminué psychiquement. Parfois, je me sens comme mort. Depuis longtemps, j'ai l'impression d'être mort. Mais je ne veux pas faire semblant d'être malade. Je considère que cela n'est pas digne d'un soldat allemand. Et un poète allemand n'a pas non plus le droit de déserter. Vous connaissez mes idées. Je me souillerai. J'ai de la nostalgie de la nostalgie. Je veux dire des nuits sans larmes. Je suis terriblement seul. Je me sens tellement enterré. Je végète, deviens bestial. Je suis comme une putain qui s'est égarée dans ce métier. Ma répugnance contre tout ce qui se passe, ma nostalgie du beau sublime, de vous, de tout ce qui était et peut advenir, et mon sens du devoir qui m'oblige à tenir bon et à assumer là où je suis. Ainsi, je suis ici fidèle au devoir qui m'a appelé, fidèle aussi à moi-même dans ce conflit. Et je crois malgré tout à ma victoire. Je porte en moi des germes innombrables et j'espère seulement les mûrir et les mettre au monde. Je tiens bon. Les dernières semaines furent indescriptiblement pleines de détresse et de mort. Cela ne peut pas devenir pire. En moi sommeillent des forces démentielles et des faiblesses démentielles. Un monde peut me tomber dessus et j'en crée un nouveau. Ah, les enfants, je ne tomberai pas. Je suis debout, froid, et je défie tout.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Mon amour, ma bien-aimée, me voici trop loin de toi. Comment survivre éloigné de ton cœur et de tes bras?
De mon cœur et de mes bras. Tiens, je l'avais oublié, cette lettre, et qui, ma foi, peut me l'avoir envoyée? André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux?
Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner mon cœur épris.
Oh non, ça ne peut être lui.
Mon amour, mon feu, ma joie. Je reviendrai, sois-en sûr.
Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture.
Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure.
Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture?
Ces jours, ces secondes qui nous tiennent séparés.
J'ai beau chercher dans la ronde de mes amoureux passés, dans quelle amnésie profonde cet amant-là s'est noyé. Qui ne résiste au temps.
Un baiser sur ta prunelle, sur ta bouche, tout autant.
Rien qui ne résiste au temps. Et la mémoire est cruelle.
Mais adieu ma vie, mon cœur. Il faut bien que je m'en aille. On m'appelle, il est 6 heures. Vaille que vaille, à moins que ton artilleur n'ait pour seule funéraille que l'étranger et la peur, le vacarme et la mitraille.
Certitude affirmée d'une simple signature.
Mon amour, si d'aventure, au front, je te
Après une permission de 15 jours, Auguste Tram est de retour auprès de sa compagnie. Il ne lui reste pas autant de jours à vivre. À sa femme, le 18 août 1915. Mes chers, chers, un grand merci pour vos lignes du 16. Ton exposé, cher Erwart, m'a procuré beaucoup de joie. Ah, mes amis, lorsque nous serons à nouveau là-bas et qu'il y aura la paix, que nous aurons la sécurité pour créer, quelle époque ce sera pour nous tous. Féerique. Un rêve. Auguste Tram meurt 6 jours plus tard, le 1er septembre 1915, sous l'assaut des Russes dans les marécages de Rokitno. Après avoir participé à plus de 70 combats, il est le dernier homme de sa compagnie à tomber. En 1919, son ami Erwart Walden publie ses poèmes de guerre sous le titre de « Goutte de sang ». Dans une biographie publiée en 1956, sa fille Inge Tram rend hommage à son père et rapporte l'anecdote suivante.
L'été 1915, mon père, alors capitaine d'infanterie sur le front russe, entra pendant une brève permission dans notre chambre d'enfant, avec un visage devenu étranger à faire peur, que la guerre avait marqué de toutes ses horreurs. Mon frère et moi jouions avec enthousiasme aux soldats de plomb. Mon père nous regarda en silence. Puis, avec un geste étrange, il posa la main sur les cheveux de son fils âgé de 10 ans et lui dit
« Tu sais, mon garçon, ce que les gens pensent de nous doit nous être indifférent. Mais devenir un salaud devant soi-même, jamais, mon garçon. Promets-moi cela. »
Que c'était étrange. Nous ne savions pas que dans son bureau était posée une requête de son éditeur pour faire exempter notre père, le capitaine et inspecteur des postes et poète Auguste Tram, de tout service sur le front, où ne manquait plus que sa signature.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Éric Boisset à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci infiniment, Dominique.
Merci.
À bientôt, j'espère. Je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci.